La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Le corps dans l'art. Bonjour. Pour ce mois-ci, je vous propose un peu de repos. Après la métaphysique, après Descartes, je vous propose de regarder un peu le corps à travers l'art. Alors l'art pour Jacques Maritain, ce n'est pas du tout une matière périphérique. C'est une matière essentielle. Pour rappel, il est agrégé de philosophie en 1905 et tout va basculer avec la rencontre de Léon Blois. Comment rencontre-t-il Léon Blois ? Tout simplement par un écrivain, Maurice Maeterlinck. C'est à propos d'une critique dans la presse sur Maeterlinck et sur Léon Blois que la relation va se faire entre les Maritains et Léon Blois. Relation fondamentale puisqu'elle va être le début de la conversion du couple Maritain et de Vera, puisque le trio Maritain reçoit le baptême le 11 juin 1906 à Montmartre. Le parrain et la marraine, ce sont les Blois. Donc, Maurice Maeterlinck, c'est celui qui a fait le livret de Péléas et Mélisande, de Debussy, un auteur belge, et on voit tout de suite que c'est par la poésie, par une prose poétique, par un artiste, que Maritain va aller vers sa conversion. Donc ce n'est pas du tout périphérique. Deuxième événement majeur, c'est Raïssa. Raïssa est une poétesse, elle a publié 3 recueils, et sa poésie touche le cardinal Journet, le futur cardinal Journet, qui est le grand ami des Maritains. Troisième indice, c'est le bain dans lequel les Maritains se trouvent. Je parle de bain parce que c'est vraiment par capillarité qu'ils ont un accès à l'art. D'abord à Versailles, ils sont quasiment voisins de Rouault. Et puis se tissent des liens de parrain, filleul entre les Rouault et Maritain. Rouault, qui est-il ? C'est un immense peintre, un peu incompris, parce qu'il peint une thématique donc, des saltimbanques, comme on peut trouver dans Alcool d'Apollinaire ou chez Picasso. Et sa façon de peindre, vous la connaissez sans doute, avec un gros trait noir qui entoure les visages, est incomprise. Pour Maritain, c'est au contraire un génie, à tel point que dans la première œuvre qui parle sur l'art en 1920, Art et Scolastique de Jacques Maritain, et bien dans cette première œuvre, un long développement est consacré à Rouault. Que dit-il dans ce développement ? Il parle du sens intelligentié. Le sens est intelligentié, c'est-à-dire que l'intelligence peint. Ce n'est pas un pinceau tout seul qui peint, comme si nous étions un robot. C'est vraiment la main qui donne au pinceau ce mouvement, parce que la main elle-même est mue par l'intelligence. Ça vous semble tout simple, mais en fait, c'est très profond. Cela veut donc dire que l'intelligence est large et qu'elle ne se réduit pas uniquement au concept, à la logique. Et vous voyez déjà se profiler une opposition, on va dire, avec le maître à penser des années 1905, c'est Henri Bergson. Pour Henri Bergson, l'intelligence, elle va être cantonnée, on va dire, au mesurable. Et c'est l'intuition qui va permettre d'avoir accès au non mesurable. Henri Bergson va donner un tel poids à l'intuition qu'il va la penser contre l'intelligence mesurable, mathématique, et il va restituer à l'intuition la possibilité d'avoir accès à la durée. Et ce partage entre intuition et intelligence ne convainc pas Maritain. Pour lui, il faut réintroduire l'intuition dans le processus même de l'intelligence. Et où va-t-il en particulier le démontrer ? C'est dans ses écrits sur l'art. Pourquoi pas ailleurs ? Tout simplement parce qu'ailleurs, les philosophes réalistes, en particulier saint Thomas d'Aquin, théologien, a déjà mis à sa juste place l'intuition, parce qu'en métaphysique, on a l'intuition de l'être. L'être est analogique, il n'est pas univoque, il n'est pas plurivoque, et il se saisit par une intuition. Donc, il y a eu énormément d'écrits, de développement. Maritain va continuer à développer l'intuition en métaphysique, mais sa grande nouveauté, c'est vraiment l'intuition dans l'art et la poésie. Alors, sa première œuvre, c'est Art et Scolastique, on sent bien un jeune thomiste. Et sa dernière œuvre sur l'art, elle est écrite en 1953. Elle est finalement une compilation de conférences qui ont été tenues à la Washington Gallery, et elles sont publiées en 1966 en français. L'intuition créatrice dans l'art et la poésie, tel est le titre, donc d'une grande somme qui va faire le pendant, on pourrait dire, de la somme métaphysique représentée par les degrés du savoir, publiée en 1932, et de la somme que représentera la morale, où Maritain passe en revue finalement toutes les philosophies pour voir comment on peut parler de morale de valeur, de morale au christianisme inversé, comme pour le marxisme, etc. Donc on a finalement trois sommes qui correspondent aux trois domaines de la philosophie. Je vous les rappelle, la philosophie spéculative, donc elle a pour finalité de savoir, et c'est la philosophie de l'être. On a accès à l'être par l'intuition. La philosophie pratique, qui elle-même se divise en deux, donc la morale, et la production, donc l'art. Vous voyez tout de suite que Maritain va s'attacher à l'art, non pas du côté du sujet qu'il contemple, le spectateur, l'auditeur d'une œuvre, mais du côté du créateur. Pourquoi ? Mais parce que sa fréquentation des artistes est intense. Donc le quatrième symptôme de cette place privilégiée, c'est après avoir quitté Versailles, Meudon. Meudon, c'est de 1924 à 1939. Et là, Meudon va être la grande rencontre de l'avant-garde artistique de tout Paris, aussi bien des écrivains, des peintres, des poètes, des musiciens. Et je pense qu'il est bon de rappeler quelques correspondances, quelques rencontres. Alors, il suffit de se baisser pour trouver des pages magnifiques. Je vais commencer par Bernanos, Dimanche des Rameaux, 10 avril 1938. Mon cher ami, j'ai fini mon livre. Il s'agit des grands cimetières sous la lune, sur la guerre d'Espagne, comme vous savez. Je crois que vous en serez content. J'ai dit tout ce que je voulais dire, sans risquer de compromettre personne. Car j'ai mené seul au feu ma cavalerie irrégulière, recrutée un peu comme celle de Vercingétorix. J'espère l'avoir poussée à fond, et qu'elle fera de l'air. Oh, plus sage que moi d'organiser le terrain. Les plombs sont atterrés, la rue Garancière sanglote, j'ai perdu l'estime du cardinal Baudrillard et toutes mes chances académiques. Vous le savez, la guerre d'Espagne en 1936, Franco, va diviser les chrétiens. Certains vont suivre les évêques espagnols et on somme les chrétiens d'obéir à cette injonction. Et d'autres, comme Maritain, Bernanos, disent non, parce qu'il y a une autre voie à inventer entre le communisme et l'extrême droite, ou le franquisme. Donc vous voyez que les amitiés littéraires, je pense à Bernanos, on pense à Julien Green, on pense à Mauriac, elles sont aussi des amitiés engagées. Pour Maritain, l'art a cette dimension. Ce n'est pas un art pour l'art, c'est un art qui est engagé, non pas au sens de Paul Éluard et d'Aragon, c'est parce que là on a une finalité de l'art qui peut être faussée. L'art, il est sans finalité, mais il peut supposer, de la part du sujet qui écrit, un engagement par lequel l'art sera une expression. Je vais prendre un autre exemple qui nous est cher pour nous, Toulousains, parce que nous avons à Encalcate deux filleuls de Maritain, dont Robert, dont les tapisseries sont exposées à Sorèze. C'est un filleul de Maritain et c'est un immense artiste. Et donc Clément Jacob, le musicien qui est toujours chanté en calcate, aux Vêpres. Donc regardons un peu du côté des musiciens ce que Maritain peut en dire. Voici dans le carnet de notes 1930, dimanche 23 février. En entendant cette œuvre, la sonate liturgique de Lourier, Guy de Chaunac, un jeune peintre de grand talent, dont je raconterai peut-être l'histoire, commença ce jour-là de comprendre mieux le sens de sa destinée. Il devint un ami de Maxime Jacob, disciple de Satie et musicien aimé des anges, qui cultive aujourd'hui son art dans un monastère bénédictin. Lui-même, Chaunac, ne tarda pas à y entrer à son tour. Donc ici, une cinquième note par rapport à cette importance de l'art, c'est que l'art ouvre une voie qui peut déboucher sur un engagement profond dans la foi. Il ne s'agit pas de confondre mystique et art. Les Maritains seront très clairs à ce propos dans Frontières de la poésie, dans Liturgie et contemplation. Mais on peut dire que l'art est comme un palier. Pourquoi ? Parce que les transcendantaux permettent à l'homme une respiration. Le beau, le bon, le bien permettent à l'homme d'être vraiment lui-même. Maritain a des pages absolument remarquables. Je vous en lis une, écrite en 1966. Le monde moderne a congédié la beauté au bénéfice des travaux forcés. Le monde aujourd'hui ne risque pas de périr d'un excès de poésie, même de poésie devenue folle. Et les grandes forces qui tendent à la fois à déifier et à détruire l'homme, et dont le surréalisme est un symptôme particulier, disposent de moyens singulièrement plus vastes et plus puissants de réalisation. Sur un point spécial, il est vrai, les surréalistes ont été les prophètes du monde moderne. Je veux parler de la répudiation de la beauté. Mais ils ont congédié la beauté pour l'amour de la connaissance magique, tandis que le monde moderne, avec infiniment plus de succès, congédie la beauté au bénéfice des travaux forcés. La répudiation de la beauté est une chose fort dangereuse. Sinon pour l'art, qui ne peut pas en réalité divorcer d'avec la beauté, du moins pour l'humanité. Car l'homme, comme le dit saint Thomas, ne peut pas vivre sans délectation. Et faute de délectation spirituelle, il passe au charnel. L'une des orientations vicieuses qui avilissent notre civilisation industrielle moderne est une sorte d'ascétisme au service de l'utile, une sorte de mortification impie qui ne tend à aucune vie supérieure. Les hommes sont encore capables d'excitation et de délassement, mais ils sont presque complètement privés de tout plaisir et de repos de l'âme. Vie qui paraîtrait insensée, même aux grands matérialistes de l'Antiquité. Ils se flagellent, ils renoncent à la douceur du monde et à tous les ornements du terrestre séjour, avec la seule stimulation de travailler, travailler, travailler et d'acquérir un empire technologique sur la matière. Leur vie quotidienne ne manque de rien autant que des délectations du sens intelligentier. Et il n'est pas rare que même les églises où ils prient soient des chefs-d'œuvre de leaders. Alors, puisqu'on ne peut pas vivre sans délectation, il ne leur reste d'autres ressources que César et plaisir qui satisfont la curiosité brute d'un regard béant d'animal, pour reprendre une citation de Allentet. Rien d'étonnant que d'autres sortes de drogues, depuis l'alcool ou la marijuana, jusqu'au culte de la Vénus charnelle, occupent une place croissante dans le processus de compensation. Le phénomène de déshumanisation peut être surmonté. L'art détient là une mission exceptionnelle. Il est le pouvoir de guérison et l'agent de spiritualisation le plus naturel dont ait besoin la communauté humaine.
Thank you.
vous avez reconnu les morceaux en forme de poire de Erik Satie. Pourquoi Erik Satie ? Parce que Maritain va l'accompagner dans sa mort. Deux extraits. Cet homme inénarrable se faisait des grimaces. Il craignait de tomber dans le travers des maîtres, se trouver beau et s'en émouvoir. Nous le vîmes substituer la forme au reflet des formes et nous apprendre que ce qui est grand ne peut avoir l'air grand. Ce qui est neuf, avoir l'air neuf. Ce qui est naïf, avoir l'air naïf. Il nous enseigna que les vrais artistes étaient des amateurs, c'est-à-dire des hommes, selon la parfaite définition du dictionnaire Larousse, qui aiment la poésie sans en faire profession. Donc vous voyez tout de suite que l'art, c'est être humain. Les extraits que j'ai lus jusqu'ici le convergent, qu'il s'agisse de Satie ou de Maritain. Et je vais vous donner une autre citation d'un immense musicien. Il s'agit de Manuel de Falla, qui est un ami des Maritains. Et dans cette allocution que prononce Maritain à propos de son ami, il souligne cette dimension spirituelle. Je me rappelle en ce moment une soirée de France chez moi à Meudon, il y a un siècle. C'était sans doute en 1937, où Bergamin nous lisait à haute voix pour notre enchantement les strophes du cantique spirituel. Je me rappelle aussi le visage de notre cher Manuel de Falla, cette flamme intérieure, douloureuse et contemplative dont il brûle, et à qui on ne peut songer sans penser du même coup au poète mystique qui restera toujours le plus haut exemplaire de l'âme et de la poésie espagnole. Cette manière qu'a Maritain de déceler chez les écrivains, chez les artistes et les peintres, la dimension intérieure est tout à fait exceptionnelle. Il verra souvent avant tout le monde le grand artiste. C'est difficile quand on est contemporain de se dire celui-là passera les ans, ne passera pas. Et il le verra peut-être parce que lui-même a touché un peu à l'aquarelle dans son éducation et surtout parce qu'il était féru d'art. Il passait ses journées au Louvre dès qu'il avait un peu de temps. Raïssa est témoin. Elle est subjuguée par la connaissance de Jacques alors qu'ils sont fiancés. Et cette dimension artistique, avec ce biotope dont j'ai parlé, cette osmose, cette connaissance de l'art par capillarité, est tout à fait unique, je pense même, dans l'histoire de la philosophie. Avoir à ce degré-là un philosophe qui fréquente les peintres, les musiciens, c'est rare. Alors les noms, ben, ils sont pléthores. Un des grands noms, c'est Arthur Lourier, tout simplement parce qu'il est russe, ainsi que Chagall, qui sera un grand ami des Maritains. Donc les Russes, ben, viennent parler russe avec Raïssa et Vera. 80 lettres de correspondance entre Arthur Lourier et Raïssa. Une correspondance aussi entre Marc Chagall et Raïssa, en russe bien sûr. La musique de Lourier, pour les Maritains, est une musique exceptionnelle. Et Maritain va consacrer aussi, dans ses écrits sur l'art, dans la troisième réédition notamment de Arès Scolastique, qui est une édition augmentée d'un petit opuscule qui s'appelle La Clé des Chants, il y a une évocation de la musique de Lourier comme musique ontologique. Voici un extrait. On a dit de la musique de Lourier que c'est une musique ontologique. En style kierkegaardien, on dirait aussi existentielle. Elle naît aux racines singulières de l'être. Une musique ontologique est une musique érotique. Ici, je parle danois. Je veux dire qu'elle tient sa substance de l'éros immanent à l'être, de la pesanteur interne du désir et du regret dont gémit toute chose créée. Et c'est pourquoi elle est naturellement religieuse. Enfin, elle n'avance pas à la façon d'un cheval ou d'un bœuf, d'un serpent, d'un oiseau ou d'un projectile. Elle avance, car l'être est de soi transcendantalement vrai et reflété ou reflétable en intelligence. Elle avance par un mouvement de paroles et de réponses organiquement liées, à la façon du dialogue intérieur, par où nous conversons sans cesse avec nous-mêmes ou avec Dieu. Alors revenons, Sur ce texte, extrait donc de la Clé des Champs, un appendice à la troisième édition de l'Art scolastique, une musique ontologique, traduite en style grégorien, existentielle. C'est très important. Pourquoi ? Parce que je vous ai introduit cette émission à partir du corps, et dans le corps, il y a l'existence. L'existence est fondamentale parce que, vous le savez très bien, Sartre va écrire « L'existence précède les sens » et c'est une certaine manière de congédier les sens. La difficulté, c'est donc de maintenir essence et existence et de montrer que l'acte d'exister est fondamental. Pourquoi ? Parce que finalement, le grand geste, c'est la descente du verbe. L'incarnation, il s'agit bien de corps, c'est le Fils qui s'incarne en quittant le sein du Père pour y remonter. C'est le grand geste de descente du spirituel dans le temporel, comme dit Maritain. Et comment nous pouvons poursuivre ce geste, nous inscrire dans ce sillage? Tout simplement en accueillant cette incarnation du verbe par un acte d'expropriation du soi. Cette expropriation du soi, c'est un terme qui est utilisé à propos de la mystique de Saint Jean de la Croix, à la fin de Distinguer pour unir, en 1932, mais qui va se décliner de manière différente. On va dire que l'artiste doit se quitter. On va parler d'un acte surérogatoire en morale, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait sortir de la loi. Et donc, vous avez ici une dimension, on va dire, existentielle, donc d'une corporéité, d'un sujet singulier, qui va permettre un pont avec les existentialismes contemporains en montrant que la philosophie de Saint Thomas est déjà un existentialisme. Donc cette importance de la musique qui permet donc, dans un domaine comme l'art, de donner un pont, une possibilité de dialogue avec les contemporains. Terminons notre émission après avec un autre mot. Vous avez remarqué le mot érotique, l'éros immanent à l'être. Ici, c'est une manière de répondre à Platon. Une philosophie éminemment érotique, d'un désir, mais pour aller vers les idées et quitter le monde de la matière, les idées étant les formes, c'est repris ici d'une manière, on va dire, aristotélicienne, donc ilémorphique, où la forme et la matière sont complètement imbriquées l'une dans l'autre, avec un autre terme qui apparaît dans ce texte et à la fin, c'est le mot « organique » et les réponses organiquement liées. Le corps dans l'art, chez Maritain, est un lieu qui permet de comprendre l'organicité d'une pensée philosophique et surtout de différents domaines et de différentes disciplines. Voilà pourquoi l'art reste essentiel dans la philosophie de Maritain.